midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, bon appétit si vous êtes déjà passé à table. J'espère qu'on va aussi vous accompagner, vous donner des idées de cuisine. Manuel Mariani est avec nous. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Ça va très très bien Manu. On a le maître du foie gras aujourd'hui.
Oui, the master of the foie gras.
Bonjour à tous. Bonjour
Julien monsieur. Durand, chef Juju. Et puis le maître de l'apprentissage de la cuisine, hein, maintenant, à l'atelier des chefs.
C'est ça, nouveau challenge, nouveau départ. On s'est lancé dans l'aventure de l'atelier des chefs. Enfin, donc on donne des cours à des particuliers où je travaille maintenant sur Hôtel de Ville. Ouais.
Très bien, ouais. Tout près de chez moi.
Ils vous ont envoyé chez le coiffeur, dites-donc, Julien, à l'Hôtel de Ville, là.
Ouais, coiffeur, barbier, la totale.
Non, c'est terminé, la barbe au nombril, hein, là. Là, ils vous ont...
ouais. C'est pas eux forcément, mais ouais, il y a eu un...
Alors, il y a eu un changement. Nouvelle vie, voilà. Nouveau look. Hein, Manu, vous noterez que chef Juju...
Ouais, puisque maintenant qu'on le voit, maintenant qu'il n'est pas dans la discrétion de sa cuisine, il n'est plus dans la discrétion de sa cuisine à l'hôtel, au musée Jacques-Marandré. Là, maintenant, on le voit quand on passe dans la rue.
Il y a des concessions à faire, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'à force de venir ici, on coupe un peu tout. Prochaine étape, on verra.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais, non. C'est, comme en direct, on peut même pas couper au montage, chef Juju.
Oui.
Bien, maître du foie gras, parce que c'est vous, c'est votre passion d'ailleurs, le foie gras. Hein.
Ouais, tout ce qui touche le sud-ouest, le Périgord.
On est dans la saison là.
Hein. On est en pleine saison, le tout début de la saison en effet. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis ma venue ici, mais même si c'était pas il y a très longtemps, mais on s'est développé dans différents inserts au choix. On va faire une box là qui va sortir dès demain, une petite box avec des mini foie gras à proposition. Donc je fais des petits foie gras de 60 à 80 grammes avec des inserts. Donc il y en aura 5 différents.
Alors, on va expliquer aux gens ce que vous appelez un insert hein, pour ouais. Le foie gras, Julien.
C'est une confiture qu'on met au milieu pour pallier ce manque d'alcool, puisque moi je fais des foie gras spéciales sans alcool et halal. Et on a des inserts assez rigolos, comme le dernier en date, c'est un litchi à l'eau de rose.
Ah.
Foie gras litchi eau de rose. Pour l'avoir testé, c'est original en soi. Donc on fait des petites boxes comme ça, on en fait des ballotins de 250 grammes, on peut monter à 500 grammes les ballotins. Et c'est vrai que ouais, c'est ce que j'affectionne, tous ces produits à base de canard, et d'oie et de foie donc. Et voilà.
Vous, bon. Vous innovez dans le foie gras.
On n'innove pas, mais il y a des inserts assez rigolos. On m'a demandé à la fève de tonka, on m'en a demandé un à la vanille. Après, c'est libre à vous de faire votre insert au choix, mais j'ai les grands classiques à l'oignon, à la figue, à la datte. Au pain d'épices. Et là, le dernier, ouais, c'était à la fève de tonka.
Sympa aussi. Foie gras chocolat, ça marche bien.
Faut bien le doser, ouais.
Voilà, du foie gras de chef chez vous, donc on peut le commander, Julien.
On peut le commander via les réseaux, sur l'Instagram, j'utilise beaucoup, durant Julien94. Et puis, je fais aussi.
Vous pouvez commander vos foie gras, évidemment, chez Julien.
Ouais, faut commander, faut s'y prendre avant. C'est des foie gras qui sont cuits, frais, sous vide. Vous pouvez le récupérer, le mettre dans votre congélateur et le sortir au moment voulu, puisqu'on a une date assez longue là-dessus de conservation. Et voilà, on fait aussi un peu de plats emportés, on fait un peu de, on essaye de faire pas mal de choses en même temps pour essayer de s'en sortir un peu convenablement.
Et alors, est-ce que vous faites le bocal de foie gras ou la conserve de foie gras comme on peut l'avoir dans le sud parfois?
Pour l'instant, non. C'est pas forcément dans mes projets, mais j'en ai fait pour un testing. C'est vrai que ça se conserve bien plus longtemps.
Oui, parce que vous faites du mi-cuit, mais faire du vrai mi-cuit en conserve, c'est compliqué, quoi.
Ouais, il y a une pasteurisation qu'il faudrait avoir, et moi, comme je travaille dans mon petit atelier, j'ai pas forcément encore toutes les normes à ce sujet. Mais moi, c'est des ballotins qui sont sous vide et conservables 20 jours. Une fois à ouverture, on a une semaine de délai pour le manger au frigidaire. Ou comme je l'ai dit avant, on pouvait le congeler en le récupérant frais.
Ouais. Et puis là, congelé, c'est un mois, deux mois, sans problème.
Ouais, c'est même 10 mois, apparemment.
Oui, oui, oui.
On peut aller, bien plus loin, ouais.
Alors, deuxième partie de cette série d'émissions, Manu, consacrée au plat préféré des Français au restaurant, à faire
à la maison.
À la maison.
Oui.
Ce qui est surprenant, c'est que parmi les plats les plus populaires qu'on mange au restaurant, il y a la côte de bœuf. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on mange préférablement au restaurant, la côte de bœuf?
À mon sens, on va demander aussi à Julien son avis, mais moi, à mon sens, c'est parce que les gens n'arrivent pas à la cuire correctement à la maison. Une côte de bœuf, c'est quelque chose d'épais. C'est que, à moins que vous la faites, que vous la fassiez scier en deux dans l'épaisseur pour faire des côtes de bœuf individuelles, là vous le cuisez plus ou moins comme une entrecôte. Mais quand vous avez, mais c'est moins sympa.
Et on perd, voilà, on perd.
Voilà, vous perdez quand même, l'intérêt de la côte de bœuf bien épaisse. Quand vous avez une côte de bœuf bien épaisse, souvent quand vous la cuisez à la maison, pour arriver à la cuire correctement à l'intérieur, surtout pour les gens qui aiment les viandes plutôt à point, voire bien cuites, hein, généralement elle est carbonisée à l'extérieur et puis elle n'est pas encore assez cuite à l'intérieur. Et donc il y a des techniques pour ça. Ça, je pense que Julien va nous donner la technique. Mais voilà, il faut savoir la faire cuire. Ça peut se faire à la maison, mais il faut savoir comment.
Après, c'est sûr que c'est plus sympa de se faire servir là-dessus. Et c'est vrai qu'une côte de bœuf, comme il a dit Manu, on peut peut-être avoir peur de la rater. Après, il y a des cuissons quand même. Quand j'entends à point, voire bien cuit sur du bœuf, c'est un peu à bannir. Franchement, il faut essayer d'arrêter ces cuissons-là sur de la viande rouge. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, tout son jus, toute sa vitamine s'en va en fait.
Mais c'est aussi, je fais juste un aparté Julien, mais c'est aussi parce que les gens en fait, quand ils essayent de faire, il y a des gens qui essayent de faire de la viande saignante ou bleue chez eux, ils essayent, mais comme ils ne le font pas bien, ils se retrouvent en fait avec de la viande qui est cuite, voire surcuite à l'extérieur et qui est encore crue à l'intérieur. Et ça, je peux comprendre qu'on n'aime pas la viande crue. Et puis elle est souvent froide aussi, c'est-à-dire crue et froide à l'intérieur et puis super cuite à l'extérieur. Mais si vous essayez une viande saignante ou une viande bleue, on peut vous expliquer comment la faire cuire pour qu'elle soit bleue ou saignante, mais cuite et chaude à l'intérieur, ouais. Parce que c'est ça. Et puis même, Julien peut vous expliquer avec un petit thermomètre.
Pour garder un peu de chaleur dans cette pièce de bœuf, comme elle est assez épaisse, mais d'ailleurs dans tout type de viande, il faut penser à la sortir au moins une demi-heure avant de la cuire en fait, pour faire monter la température ambiante à l'intérieur du cœur de la bête et du produit. C'est vrai que nous on a tendance à sortir du frigo et à la cuire directement.
Tout de suite, voilà.
Et vous perdez en goût déjà, et puis vous perdez en chaleur, c'est ça. Donc il faut vraiment la faire monter en température ambiante, et puis il faut partir sur un feu vif pour faire colorer, pour faire pincer les sucs, et après on réduit le feu. Donc une côte de bœuf, on la finira au four, mais il faut la saisir et pour la finir à cœur au four.
Ouais. Et à four doux, hein, n'hésitez pas à mettre votre four à 110, 120 degrés, à laisser longtemps la viande dedans. Elle ne va pas surcuire quand vous êtes vers 100, 110 degrés. La viande va chauffer à l'intérieur, mais sans cuire ou sans surcuire. Et puis, vous pouvez acheter maintenant, même dans les supermarchés, au rayon cuisine des supermarchés, on trouve ces petits thermomètres qu'on pique à l'intérieur. Il faut que votre viande soit entre 70 et 80 à cœur. Et là, vous aurez une cuisson parfaite. Vous collez ça au four avec le thermomètre, le thermomètre bien dans la viande, et vous sortirez votre viande avec une cuisson parfaite. Et surtout, quand on sort du four ou quand on sort de la poêle, on laisse toujours reposer 10-15 minutes à couvert pour que le jus imprègne bien toute la viande, et là vous aurez une viande super moelleuse et juteuse.
On dit qu'il y a un temps similaire de cuisson au repos.
Ouais.
Si on devait la cuire un quart d'heure, en effet, on devrait la laisser reposer un quart d'heure afin que tout son sang se propage à l'intérieur de la pièce, en fait.
Alors, cette histoire de côte de bœuf cuite à la cheminée, c'est un mythe, alors ? Complètement à la cheminée ?
Ah non, on peut, mais on le met suffisamment à distance. On le met suffisamment à distance des braises pour qu'elle cuise doucement. Voilà, doucement.
D'où l'intérêt d'avoir une bonne braise.
Ouais.
C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, mais c'est sûr que le goût en ressort un peu plus plus fumé, un goût de bois, un goût d'être. Et c'est vrai que c'est, en soi, c'est idéal, hein.
Parce que vous avez cette mode des fours Jospère, par exemple, qui montent jusqu'à 500 degrés. Vous allez marquer votre viande dans le Jospère, mais après vous allez baisser la température les fours Jospère, c'est des fours au feu de bois. Hein, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des fours au feu de bois avec un couvercle. Et ça vient d'Espagne, si je ne me trompe pas. Et c'est très à la mode dans les restaurants. D'ailleurs, on avait reçu Philippe Baranès, qui est entre autres propriétaire du restaurant Braise en Ville, où tout est cuit
à la braise. Ouais.
À la braise au four Jospère, de l'entrée au dessert. Et c'est vrai que le four Jospère, c'est un outil génial. Bon, il faut savoir l'utiliser, mais ça fait des viandes parfaites.
Est-ce qu'il y a des produits qu'on ne mange qu'au restaurant et qu'on ne fait pas à la maison ?
Bonne question, je sais pas. Mais
moi, je dirais que c'est les choses qui sont difficiles à faire à la maison. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent mon plat préféré c'est les frites, mais je ne les fais jamais à la maison. Pourquoi ? Parce que l'odeur de friture, j'ai pas forcément de friteuse, etc. Il y a les choses compliquées. Il y a des gens qui savent pas trop utiliser leur four, donc tout ce qui est avec des cuissons au four. Le four, ils s'en servent juste pour griller ou gratiner des trucs comme ça, mais qui vont manger ces plats au restaurant. On pourrait citer le foie gras. On l'achète dans le commerce ou on le mange au restaurant, ouais. mais on le fait pas forcément soi-même. Enfin bon, c'est tout ce qui est tout ce qui peut générer des odeurs. Enfin bon, il y a.
Moi, j'irais chercher davantage des plats qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Donc, on partirait sur peut-être des découpes en salle. Je trouve ça super, avoir un peu un spectacle au guéridon du maître d'hôtel qui pourrait vous proposer justement cette côte de bœuf taillée dans les règles de l'art avec les fines tranches ou cette sole un peu meunière qu'on viendrait arroser devant vous. Après, non, moi, j'ai pas forcément d'a priori là-dessus. C'est mon métier, donc j'arrive à tout faire chez moi. Mais un bon rognon de veau, j'aimerais bien aussi le manger dans un. Chez un bon restaurateur.
Un resto, ouais. Oui, et puis peut-être pour les gens qui bossent, je sais pas, dans une famille où le papa et la maman travaillent, ils ont pas forcément, je sais pas moi, un bœuf bourguignon ou un sauté de quelque chose qu'il faut faire mariner quelques heures et puis qu'il faut faire cuire à feu doux pendant 4 heures, etc. Quand vous rentrez du boulot, vous êtes allé chercher les mômes à l'école, vous avez fait faire les devoirs et tout, il vous reste plus forcément de temps pour attaquer un plat qui dure des heures. Donc même à la limite, si vous savez le faire, c'est quand même le plat que vous allez plutôt manger au restaurant.
Alors, une des stars des cartes des restaurants, c'est l'avocat crevette.
Eh oui.
Manu, c'est votre terreur, ça, l'avocat crevette.
Oui, parce que c'est quelque chose de bon, mais si c'est pas bien fait, c'est pas terrible. Parce que souvent, l'avocat crevette, qu'est-ce qu'on fait ? On vous met un avocat trop mûr ou pas assez mûr, avec des crevettes, des minuscules crevettes congelées, décongelées.
2 litres de mayonnaise.
Voilà, 2 litres de mayonnaise avec un peu de ketchup dedans. Allez hop, c'est une sauce cocktail, alors que la sauce cocktail, c'est pas du tout ça.
Ah bon ?
Bah non, attendez. Une sauce cocktail, c'est une vraie sauce. Il y a du cognac dedans, il y a de la purée de tomate. Enfin, je vais laisser Julien.
Un peu de ketchup, un peu de tabasco. Et en effet, il y a une pointe de cognac dedans.
Et il y a de la Worcestershire sauce dans la vraie sauce anglaise, dans la véritable sauce cocktail. Donc, c'est une sauce très codifiée. Vraiment et donc cette sauce cocktail elle va parfaitement bien avec les crevettes, mais alors il vaut mieux mettre moins de crevettes mais acheter des belles crevettes chez le poissonnier ou des gambas voilà bon et ça et puis je crois que vous avez une technique en plus Julien quand on a des avocats pas assez mûrs pour les faire mûrir avec des bananes.
Ouais, c'est ça, c'était enveloppé dans un papier journal proche d'une banane en fait et ça accélère un peu le procédé de mûrir l'avocat en fait. Après l'avocat, voilà, on en mange toute l'année, mais il y a quand même une saison à respecter. Et c'est vrai qu'on peut pas en manger aussi, tout le temps, quoi. Ils viennent du Pérou, ils viennent du Costa Rica, ils viennent de je ne sais où. Voilà, moi c'est pas trop mon truc. Pensez à manger de saison.
Vous préférez d'où vous les avocats alors, Julien ?
Bah c'est pas la convenance, c'est juste la saison et la période en fait. On en trouve tout le temps et c'est ça qui on a plus trop de repères après là-dessus. Mais comme a dit après Manu, on peut changer des crevettes grises en mettant des gambas. On peut mettre dans une petite mayonnaise une petite pointe de crème pour l'alléger un petit peu. On peut la rendre un peu plus spicy avec un peu de curry, un peu de pointe de piment. Après, en soi, il y a différentes façons de la faire.
Ouais. Bon, et moi, pour être un petit peu chauvin, je vais préconiser l'avocat corse, mais on en trouve très peu.
Ouais, c'est ça, très peu.
C'est une minuscule production qui suffit à peine à couvrir les besoins.
À quel prix aussi, j'imagine, ça va.
Ouais, non, c'est pas donné, mais c'est très. Enfin, cela dit, les prix des avocats du Pérou, machin, on paye le billet d'avion maintenant. Hein.
Mais ne serait-ce qu'en changeant l'avocat là, dans sa texture, en le coupant en deux, en enlevant son noyau et en faisant cuire cet avocat pour lui donner un côté un peu marron et cuit. Ça change complètement le goût de cet avocat crevette.
On parlait d'ailleurs de la braise. On peut mettre la moitié d'avocat sur le grill ou sur le barbecue. Ouais. Ça c'est vous
moi,
connaissez ça, Julien.
Un petit appartement.
Alors, allez-y pour la recette de votre.
Non mais c'est pas si compliqué que ça. C'est le mettre sur les plaques comme on a des plaques, vous savez,
à grill,
que
ouais.
vous faites chauffer à blanc. Donc on fait chauffer à départ à blanc sur un feu ou sur une induction et quand ça fume un petit peu, vous versez. Votre avocat dessus pour le quadriller, en fait, lui donner un côté un peu, entre guillemets, brûlé, un peu un côté.
Ouais, côté cher, hein, bien
côté
sûr.
Côté cher, bien sûr, pour lui donner un côté un peu brûlé, cramé légèrement.
Oui, caramélisé,
quoi.
Ouais.
Et avec cet avocat légèrement torréfié, on l'appelle, bah, vous faites votre guacamole que vous écrasez à la fourchette. Pourquoi la fourchette ou le fouet ? Parce que j'aime bien avoir un peu de texture. J'aime pas l'avocat qui est complètement lisse, qui ressemble à rien, on dirait à une purée d'avocat. Enfin, on peut jouer sur différentes textures du produit qui font que, après, ça le rend un peu différent.
Je valide.
Et ensuite, une fois qu'il est écrasé, vous faites quoi ?
Il est écrasé, la parallèle, c'est la
donc
sauce.
Donc la petite sauce cocktail.
C'est la sauce cocktail, donc c'est une base de mayonnaise, vulgairement parlant, avec un peu de ketchup, un peu de tabasco. Armagnac ou pas, cognac ou pas.
Sauce anglaise, très important.
Sauce anglaise ou pas, selon les goûts. Moi, je l'additionne d'une bonne crème légère pour la rendre un peu plus onctueuse et un peu plus légère, parce que la mayo en soi, c'est costaud. Et puis voilà, vos crevettes, pourquoi pas vous les faire un peu tiédies aussi. On n'est pas dans notre esprit, c'est avocat crevette froid, mais on peut le servir un peu tiède, un peu chaud. Voilà, faut jouer sur différentes textures, différentes chaleurs. On peut y mettre une pincée de coriandre hachée dedans, on zeste un citron vert.
Ouais, et puis le truc aussi, l'erreur que font souvent les gens, et même au restaurant, hein, souvent c'est le cas, puisque la mayonnaise ça coûte moins cher que les crevettes, c'est qu'on se retrouve avec une tonne de mayonnaise avec deux crevettes qui se battent en duel à l'intérieur. Il faut, je veux dire, la mayonnaise, elle doit juste lier les crevettes entre elles. Elle doit pas, ça doit pas être un grand bain comme on dit.
Hein, donc après, tout ce qui est présentation en fait, c'est ce qui joue un rôle important, c'est le visuel. Et quand vous avez votre texture un peu d'avocat guacamole comme ça avec les crevettes dedans et un peu façon ballotin de volaille, vous pouvez ne serait-ce que faire justement des ballotins de cet avocat crevette que vous roulerez dans un film alimentaire, que vous laisserez prendre au frigo, vous voyez dans le sens, dans l'esprit que je veux dire, on remplacerait la volaille donc par cet avocat crevette, roulé dans ce ballotin et ce film alimentaire, et une fois pris en froid, ça fige, et après vous pouvez couper des petits tronçons d'avocat un peu crevette.
Faire des maquis d'avocat crevette.
Des maquis d'avocat crevette, voilà, et libre à vous après de partir sur des délires un peu fous là-dessus.
Avec une petite feuille d'algue noirie autour, pourquoi
pas.
On
n'est plus du tout sur l'avocat, coupé en deux comme ma mère faisait, mettait la chair dedans. Non, on a changé un peu le truc. Hein.
Alors, une sauce incontournable, c'est la sauce de la fameuse salade César. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là, cette sauce, Julien ?
Ah, y a une grande histoire sur la César, hein. Pas la faire ici, parce que je pense qu'on n'aura pas forcément de
Alors,
temps.
Alors, on peut la faire après la pub, si vous voulez.
On pourra la faire peut-être après la pub, mais elle vient de loin, et nous, on l'a un petit peu simplifiée, mais normalement, y a de l'ail. Il y a un peu d'anchois et c'est monté un peu, encore une fois, comme une mayonnaise un peu rapide, mais on la crème légèrement ou pas, mais voilà, il y a pas plus, il y a pas moins et c'est tout en fait. Pour moi, c'est une anchoyade un peu détendue avec cet esprit de mayonnaise.
Alors, on a perdu l'esprit, hein, effectivement.
L'esprit
dans beaucoup de salades César qu'on mange aujourd'hui, on en est très très loin.
C'est une sauce blanche aillée.
Voilà, c'est ça.
Et même pas toujours. Hein. Souvent, ils font ça avec un peu de poulet à peine grillé, hop, une petite vinaigrette dessus. Ils appellent ça salade César. Ouais. Mais on va vous parler de la vraie salade César après la pause.
Bon, alors, on va en parler après la pause. Manu, on joue toutes les semaines, hein, avec vous et sur votre Insta.
Absolument. Aujourd'hui, bon, comme on n'était pas en direct la semaine dernière, vous étiez très nombreux à m'écrire là toute la semaine sur les réseaux sociaux en disant, le tirage au sort, il est où ? Eh ben, il sera aujourd'hui, hein, donc pour gagner le livre Au pays d'Alice de l'influenceuse food Alice Moirot, aux éditions de La Martinière. Et puis, vous pourrez jouer à partir de 13h30, hein, comme tous les samedis, vous pourrez jouer pour gagner un nouveau livre, Gâteau de Noël, bûches et autres biscuits par Émile et la Raison aux éditions Solar. Et ça, c'est un livre qui vous permet de faire toutes les pâtisseries de Noël sans avoir le KitchenAid, le batteur, le truc et tout.
C'est super.
Vous avez tout ça dans ce livre, donc c'est vraiment un super livre et vous pourrez le gagner sur mon Instagram mariani.manuel à partir de 13h30.
Et dessus de table, voilà, bah c'est jusqu'à 13h ce Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Les plats préférés des Français à la maison avec le chef Julien Durand qui est avec nous, Manuel Mariani. On était en train de parler tout à l'heure de cette fameuse recette de...
Oui. Permettez-moi de corriger, c'est les plats français de restaurant cuisinés à la maison, Philippe. Hein.
Cuisinés à la maison, voilà. Et on parlait de la salade César que longtemps on a pu manger que dans les hôtels, hein, Julien.
C'est ça, c'est vraiment la salade un peu qu'on retrouvait en chambre dans les room service.
Room service, exactement.
Ouais. Ouais. Bon, c'est quoi l'histoire de la vraie salade César? C'est César Ritz, hein, qui l'a inventé,
Manu? Alors, non, Philippe, c'est ce que je croyais moi aussi avant. Et écoutez, figurez-vous, j'ai appris que ça n'était pas César Ritz. Alors évidemment, on en a beaucoup servi dans les hôtels de César Ritz, hein, puisque comme on le dit, c'est un plat emblématique d'hôtel et de room service, comme le club sandwich que vous disiez pendant la pause. Mais en fait, elle vient d'un certain César Cardini, donc c'est pas Ritz, c'est Cardini.
Le César de salade,
ouais.
César,
c'est ouais, Cardini. C'était effectivement un restaurateur italien qui était à San Francisco, Los Angeles, dans les années 20. Et quand il y a eu la prohibition, les restaurants ne marchait plus du tout aux États-Unis puisque les gens allaient au restaurant plus pour picoler que pour manger, hein, on va dire. Et donc, il y a beaucoup de restaurateurs, ceux qui étaient dans le sud des États-Unis, ils avaient la chance d'avoir la frontière mexicaine pas loin. Donc, César Cardini, il a ouvert deux restaurants juste de l'autre côté de la frontière, dont un à Tijuana. Et sa clientèle était quasi exclusivement américaine.
C'est
au Mexique, mais très proche de la frontière américaine. Et il avait beaucoup de clientèle américaine parce que déjà, il avait des prix qui n'étaient pas forcément accessibles. accessible aux Mexicains à l'époque. Et puis, les Américains pouvaient pas boire aux États-Unis, ils allaient boire et manger juste de l'autre côté de la frontière. Et puis un jour, c'était le 4 juillet, donc la fête nationale américaine. Le restaurant était bondé, et il avait pratiquement plus de marchandises, mais il voulait pas refuser les clients. Donc César Cardini, comme il était de l'ancienne école, il s'est dit je vais faire un petit peu de service au guéridon. Et il a sorti tout ce qu'il avait dans sa cuisine, il a mis ça sur un chariot, il a commencé à préparer des grandes salades aux clients, au guéridon, comme ça, sur la table. Comme c'était un truc assez simple, hein, il restait pas des tonnes d'ingrédients, il faisait un peu de show pour mieux vendre son truc. Et puis il a préparé des salades comme ça, dans laquelle il mettait des ingrédients qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, dans la première version de la César, donc qu'est-ce qu'il y avait?
Alors, il y avait donc de la romaine, hein, c'est pas de l'iceberg. C'est pas de la sucrine, c'est pas de la laitue, mais c'est de la, enfin, c'est de la laitue parce que la romaine est une variété de laitue, mais c'est de la romaine, hein. Et c'est les feuilles entières, hein. On ne coupe jamais les feuilles dans une salade César. Il y a des croutons à l'ail ou du pain à l'ail. Il y a du jus de citron et de l'huile d'olive pour la sauce. Du parmesan qu'on met dans la sauce, du parmesan râpé qu'on met dans la sauce. Sel, poivre, de la sauce Worcestershire sauce, comme dans l'avocat sauce cocktail. C'est dur à dire. On dit sauce anglaise, hein, c'est bien aussi. Et que si vous n'avez pas de sauce anglaise, parce qu'il y a des gens qui mettent systématiquement des anchois ou même des anchois entiers. Non, ça, c'est pour pallier au manque de sauce anglaise. Si vous n'avez pas de sauce anglaise, vous pouvez mettre un peu de purée d'anchois dans la sauce ou mettre des petits filets d'anchois. Voilà. Ça, c'est la recette originale. Certains rajoutent de la moutarde dans la sauce. La version originale, il n'y en a pas. Et donc, certains rajoutent de la purée d'anchois dans la sauce. Ça, c'est uniquement si vous n'avez pas de sauce anglaise. Et dans les versions originales, il n'y a pas de poulet. Aujourd'hui, on la trouve partout avec du poulet. Mais ça, c'est aussi une déformation de la recette originale par les Américains. Parce que chez nos amis d'outre-Atlantique, il n'y a pas de salade sans prot. Hein. Il faut une protéine dedans. Donc, ils ont rajouté du poulet grillé. Voilà.
C'est comme la salade niçoise. Hein. Il y a autant de recettes, finalement, que de cuisinier.
Voilà, mais il y a quand même un précepte. De toute façon, il n'y a pas de recette de salade niçoise parce qu'elle est différente selon les saisons. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie salade niçoise, on peut lire ça dans les vieux livres de cuisine provençale de Guy Djeda, par exemple, qui est un grand chef provençal. Dans la salade niçoise, tout est cru, il n'y a rien de cuit, donc pas d'œuf dur, par exemple. Voilà, et j'oubliais, quand on parle d'œuf dans la salade César, à la base, il y avait de l'œuf cru, mais ça a été abandonné aux États-Unis pour des raisons un peu hygiénistes. Ça a été remplacé par des œufs mollets.
Bien.
Voilà pour la salade César.
Alors, autre classique du restaurant, le saumon à l'oseille. Alors là, par contre, l'oseille, c'est un peu tombé en disgrâce, hein, Julien.
Oui, on l'a remplacé par un épinard maintenant.
Ouais.
On en met moins, on met plus des épinards.
Ouais, plutôt florentine, ouais, saumon florentine.
Florentine, un petit peu, c'est juste l'oseille qu'on remplace par l'épinard, qui a un goût d'oignon plus d'ailleurs, et qu'on fait suer comme ça, juste à la fin de cuisson, pour déglacer, on va dire. Pour le faire tomber un petit peu, comme si on ferait tomber un épinard dans la poêle.
Voilà, puis si vous avez des enfants à la maison, l'oseille, ça a un goût un petit peu métallique, qui plaît pas forcément aux enfants, un petit peu astringent, métallique, qui est un peu spécial. Mais je pense, Julien, que c'est surtout l'occasion, en fait, de parler de la cuisson du saumon. Parce que le saumon, on peut le faire avec un beurre blanc, avec une sauce à l'orange, etc. Mais la question, c'est surtout la cuisson du beurre blanc, Julien. Comment est-ce qu'on...
Moi,
du beurre blanc, du saumon.
Comment est-ce qu'on... On cuit moitié, voilà, pardon. Donc on cuit sur un côté, le côté peau, et on le laisse cuire gentiment, et on arrose, et au fur et à mesure d'arroser, il y a une cuisson rosée et top, quoi. Donc c'est à l'unilatéral le terme qu'on utilise.
Ouais. Oui, et donc, oui, essayez de demander à votre poissonnier de laisser la peau, hein, parce que justement, ça protège le saumon pendant la cuisson.
Donc, dans une poêle adhésive assez chaude, on met un filet de sel, un peu de poivre.
Anti-adhésive, vous vouliez dire.
Anti-adhésive, pardon. Ouais. Et vous mettez à contact votre peau de poisson sur la poêle. Donc, on départ avec un petit feu vif quand même.
C'est comme le magret, finalement, le saumon.
Ah, c'est un peu, non, alors le saumon, ça, on démarre à, c'est le contraire du magret, hein.
Le magret,
on démarre à froid. Alors que le saumon, on démarre justement plutôt chaud.
Plutôt chaud pour saisir la chair, en fait. Et après, on réduit le feu, on le baisse, ou l'induction maintenant, pour vraiment le cuire à cœur. Et ça s'appelle à l'unilatéral. Donc, il y a un côté cuit et un côté mi-cuit, on va dire.
Alors moi j'ai un petit tips, si vous n'avez pas de poêle anti-adhésive ou si vous avez des poêles adhésives un peu anciennes qui sont plus tout à fait anti-adhésives, et vous allez voir pour le saumon c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de minuteur, vous n'avez pas besoin de compétences en cuisine. Vous prenez du papier sulfurisé, vous savez le papier cuisson. Vous mettez un peu trois gouttes d'huile d'olive pour que le papier colle au fond de la poêle. Vous mettez votre feuille de papier cuisson par-dessus et vous remettez un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Là, vous mettez vos filets de saumon. Alors pareil, on les sort à l'avance, hein, les filets de saumon.
Toujours.
20-30 minutes avant, vous les sortez du frigidaire parce que ça fait un choc thermique si vous les mettez trop froid et vous avez fait ressortir tout le collagène. Vous savez, cette espèce de petite crème blanchâtre là qui sort du poisson. Ça, c'est le collagène. Vaut mieux le laisser à l'intérieur. C'est plus de moelleux. C'est évite que ce soit sec, etc. Et donc vous mettez ce.
Bah, c'est le bon gras du poisson.
C'est ça,
gras,
c'est les oméga 3. Ouais, les oméga 3. Et vous collez donc votre poisson sur la feuille de papier sulfurisé sur laquelle vous avez mis un peu d'huile d'olive. Et dès que vous allez avoir 5 mm de blanc, vous savez, quand ça commence à cuire, le saumon, ça passe de l'orange au blanc rosé. Dès que vous avez 5 mm de blanc, là vous couvrez et vous comptez 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, vous les sortez. Ils vont être cuits autour et ils vont être parfaitement parfaitement nacrés à cœur. Et vous avez une cuisson parfaite du saumon. Ça marche à tous les coups. Si vous avez peur de le rater, vous pouvez les faire comme ça.
Exactement. Tout est dit.
Bien. Et alors moi, contrairement à vous, j'aime l'oseille. Je trouve que c'est très très bon. Alors, c'est un petit peu amer quand même. Hein. Il y a un fond d'amertume dans l'oseille. Julien, comment vous feriez manger vous de l'oseille à des enfants, par exemple?
Bah, je ferais d'abord ciseler un peu d'oignon. Justement, l'oignon va apporter un peu de caramélisation, un peu de sucre pour atténuer un peu ce côté amer de l'oseille. Mais après, je vous le dis, je l'utilise comme un épinard. Donc, on fait revenir un peu d'oignon dans une poêle avec du beurre. Et une fois qu'on a fait compoter nos oignons, on additionne de cette oseille là et on le mélange. Moi, je l'adore. J'aime le manger un peu cru, un peu cuit aussi. Ouais. Je suis pas très surcuisson dans tout ce que je mange, mais on mange comme ça, juste dans une poêle chaude, retournée. Voilà, quoi. Ça suffit amplement, en fait.
Ou sinon, pour faire manger du saumon aux enfants, vous faites une sauce à l'orange avec le saumon. Ça marche super bien avec.
Le problème, c'est pas le saumon, c'est l'oseille. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est l'oseille et les épinards qui
sont compliqués
à faire manger aux enfants.
Ah, le saumon, parfois, c'est difficile. Et avec une sauce à l'orange, j'ai remarqué que ça passait bien. Vous faites comme un beurre blanc. Vous trouvez une recette de beurre blanc sur Internet. Et vous remplacez en fait le vin blanc ou le vinaigre, hein, parce que plusieurs styles de beurre blanc. Vous remplacez le beurre blanc et le vinaigre par du jus d'orange, et vous faites réduire ça vraiment presque à sec. Il faut qu'il reste quoi, allez, 1,5 cm max dans votre casserole quand vous faites le beurre blanc avec les échalotes, tout ça. Et après vous mettez le beurre, et si vous la faites à l'avance, vous mettez un petit peu de crème pour qu'elle tienne,
parce que sinon
elle retombe.
La crème aussi qui peut aider aussi les enfants, tout ce qui est un peu crémeux, tout ce qui est un peu gourmand, et ils ont tendance à y aller plus facilement, en fait.
Mais avec un petit beurre d'orange, pour les enfants qui mangent pas de poisson, avec du saumon ou un autre poisson, ça passe tout seul.
Donc en fin de cuisson, quand vous avez fait vos épinards ou votre oseille, vous mettez une petite lichette de crème un petit peu pour lier le tout, et ça rend cette oseille verte un peu plus blanc, et ça donne un peu plus de gourmandise, on va dire.
Alors ils ont débarqué il y a quelques années dans les restaurants, même dans les gastro, c'est le fish and chip. Alors pourquoi finalement on les retrouve sur les tables et sur les menus des restaurants
et d'hôtels aussi, je pense, non? Ouais. On en trouve aussi pas mal dans les rooms aussi. C'est pas, peut-être qu'on n'a pas forcément la technique pour paner le poisson. Donc on peut prendre différents poissons. Moi j'arrive à avoir un peu de colin ou un peu de lieu ou même du cabillaud, c'est top. Que vous roulez un petit peu avec vos mains pour essayer de faire un petit cigare avec, vous voyez, pour avoir un esprit de fish and chip, donc dans un cigare.
Un peu bâtonné, oui.
Un peu bâtonné. Et après, vous le panez dans la chapelure de pain. Donc, on le panne deux fois pour avoir un côté un peu croquant. Mm-hmm. Donc, ce morceau de poisson, vous le badigeonnez de farine type 55 classique. Et vous enlevez l'excédent qu'on met après dans un mélange d'œufs et d'eau. Et après, dans ce mélange d'œufs et d'eau, vous le passez dans cette chapelure une première fois. Donc, on le met avec ses petits doigts une première fois. On le repasse une deuxième fois dans cette panade un peu d'œufs battus. Et on le replonge une deuxième fois, dans la chapelure. Pour avoir vraiment ce côté doublement croustillant.
Mmh. Oui, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de faire une pâte à beignets pour faire des chips, mais c'est pas du tout une pâte à beignets. C'est ce qu'on appelle en anglais, si je me trompe pas, je suis en train de le traduire là pour voir si je me plante pas, mais je crois que c'est ce qu'on appelle le batter, B-A-T-T-E-R en anglais, il me semble, qui est une espèce de chapelure, enfin de pâte, une pâte à fish and chips un peu, quoi.
Bah, ceci dit, le fish and chip anglais est bien meilleur que tout ce qu'on peut trouver en bâtonnet, hein, ça n'a rien à voir.
Bien sûr.
Oui, après, c'est sûr que nous, on le fait en bâtonnet, mais on peut le faire des petits morceaux aussi, un peu façon, un peu nuggets de poisson, hein. Il n'y a pas d'esprit.
Voilà, c'est plus l'esprit nuggets de poisson.
C'est plus, c'est plus dans cet esprit-là que vous voulez dire, ok, d'accord, mais il n'y a pas forcément d'esprit titré là-dessus. C'est, en fait, c'est bien pour faire des petits, quand on a des chutes de poisson, de poisson blanc, le faire après un peu pané, ça amuse un peu les enfants, et c'est un côté croustillant et fric qui est bon en soi.
Alors, je vais vous poser une petite colle. Vous avez peut-être la réponse, Philippe, parce qu'on avait fait une émission dans laquelle, sur le fish and chips, dans laquelle j'avais parlé de ça. Mais à votre avis, quel est le pays d'origine du fish and chips?
Je sais pas, moi, je dirais l'Écosse.
Oui.
L'Écosse ou l'Irlande.
Non, vous n'y êtes pas du tout, Philippe.
Non. La Turquie.
Eh ben non, le fish and chips, ça vient du Maroc, figurez-vous. Le fish and chips vient du Maroc parce que c'était des... Non, mais attendez, vous avez une tête bizarre, Philippe.
Non, pas du tout. Alors là, Manu, je ne remettrai jamais en cause
au Portugal,
vos connaissances.
Au Portugal, il y avait une communauté juive assez importante qui a été chassée du Portugal et qui s'est réfugiée au Maroc. Et ces Portugais étaient des grands pêcheurs. Et donc, sur les ports, avec les pêcheurs marocains, ils se retrouvaient et les Portugais aimaient beaucoup les choses... frites, les préparations frites, etc. Et donc ils faisaient frire leur poisson et puis ils faisaient aussi des pommes frites avec, donc des fish and chips. Hein. C'était les premiers fish and chips.
D'accord.
Et puis quand ces marins portugais ont été également chassés du Maroc, hein, ils se sont réfugiés en Angleterre, qui était un espèce d'Eldorado pour tous les réfugiés à l'époque, comme un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ces pêcheurs portugais, quand ils sont arrivés, on leur a pas donné la permission de pêcher parce qu'ils n'étaient pas membres du royaume. Du coup, ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on sait faire d'autre à part pêcher? On sait faire des fish and chips et donc ça a commencé effectivement sur les ports à Brighton, à Southampton et puis c'est arrivé après à Londres et c'est là qu'on a commencé effectivement à faire du fish and chips.
Bien.
En Europe du moins.
Voilà l'histoire de l'histoire du fish and chip. Alors c'est arrivé sur nos tables il y a quelques années, c'est le chili con carne. Alors c'est vrai qu'on a l'emblème de la cuisine Tex-Mex, Manu. Alors, là aussi je vais faire grimper Manuel Mariani au rideau.
Oui, alors le chili con carne, c'est totalement Tex-Mex. Hein. Si vous allez dans un restaurant dans la cambrousse mexicaine et que vous demandez un chili con carne, pour eux ça veut dire du piment et de la viande. Hein. Il y a pas de haricots rouges, rien. Le chili c'est une sauce et la carne c'est la viande. Donc chili con carne, c'est effectivement une
alors,
sauce.
La recette qu'on mange aujourd'hui, elle vient d'où cette recette?
Alors c'est purement Tex-Mex, c'est américain. C'est américain, c'est au sud des États-Unis. C'est la diaspora mexicaine dans le sud des États-Unis qui a ramené quelques épices comme le cumin, qui a ramené des haricots rouges, le piment aussi, le fameux chili. Hein,
c'est leur ragoût, c'est un petit peu leur ragoût.
Voilà,
quoi.
Et c'est un peu un ragoût de cow-boy, quoi. Voilà, qui à la base n'était pas fait avec de la viande hachée, mais avec de la viande de bœuf ou du cheval de réforme. Parfois, je parle de l'époque des cow-boys, hein, qui était cuit longtemps dans un ragoût, et puis c'était un peu effiloché. Puis on avait des haricots rouges parce que ça se transportait facilement et ça se gardait bien, les haricots rouges secs, on faisait tremper ça et puis on mettait ça dans le ragoût, mais ça c'est purement américain, c'est pas du tout mexicain.
C'est un peu la version de la bolo un peu chilienne, quoi.
C'est ça, voilà.
C'est la bolo chilienne, quand vous dites bolo, ouais, c'est la bolognaise.
Hein. Ouais, la bolo, la bolognaise. Perso, le chili, il est pas encore rentré chez moi, mais pour le peu que j'en ai mangé, c'est bon en soi, donc c'est une version un peu, moi, de steak haché que j'avais mangé avec ces haricots rouges. On m'avait servi ça, je crois, dans une grosse pomme de terre coupée en deux. À l'intérieur, on avait farci donc cet appareil de steak haché.
Ouais, c'était un petit peu revisité, quoi.
Et cette revisite, un peu de bonne. Bref, c'est.
Alors parfois, voilà, bon, dans les restaurants Tex-Mex, on va vous mettre une petite cuillère de crème fraîche par-dessus. On va vous mettre servir avec du riz. Bon, ça n'est pas le Tex-Mex originel. Le Tex-Mex originel, c'est juste de la viande. Tomate, cumin, oignon et haricots rouges. Hein, ça, c'est, et puis du piment.
C'est un peu relevé. Hein.
Ouais, c'est un petit peu relevé. D'où le nom de chili. Et voilà, ça se mange tel quel. Et en tous les cas, c'est pas mexicain.
Donc, bien. Alors, c'est le début de la saison, c'est la raclette. Alors là aussi, la raclette. Alors, maintenant, il y a beaucoup de restaurants de raclette et de fondue. Manu, je sais que vous aimez beaucoup ça.
Ah non, pas trop, non, parce que dans ce genre de restaurant, pour peu qu'ils fassent en plus des fondues bourguignonnes, vous rentrez là-dedans avec votre petit parfum de chez Guerlain ou de chez Hermès, et vous ressortez avec une odeur, le combo gagnant graillon fromage. Et franchement, avec l'huile qui a servi pour 207 clients, qui a pas été changé, qui commence à sentir le gros graillon, le fromage.
Ah, donc là, si je vous comprends bien, c'est quelque chose qu'il vaut mieux manger à la maison.
Ouais, il vaut mieux. Alors, pour ce qui est de la fondue bourguignonne, il vaut mieux pas la manger du tout, parce que, excusez-moi, de la viande frite dans l'huile, cuite et recuite, hein, franchement, c'est la viande, le bœuf, il est mort pour rien. Et puis, c'est pas bon du tout pour la santé, parce que cette viande que vous allez cuire dans l'huile, qui va bien se gorger d'huile rance, et que vous allez la tremper après dans une sauce tartare avec plein de jaune d'œuf et plein d'huile. Bon, franchement, niveau...
Julien, vous êtes d'accord avec ce que dit Manu?
Je suis éclaté de rire, mais c'est un peu ça, ouais. C'est péché un peu de mettre un bon morceau de bœuf.
On va pas en parler, alors.
Mais vous parliez de la raclette, de toute façon.
Quand on était petit, c'était rigolo. On piochait ça, on a essayé de chercher le morceau qui était tombé et tout. Très dangereux en soi, en plus.
C'est dangereux pour le
avec coup. Le chauffe plat au milieu du truc et tout, j'ai des souvenirs, waouh. Mais non, on évite.
Quand vous voyez des restos où il y a des tablés avec quatre mômes autour du poêlon avec l'huile bouillante, vous avez envie de dire aux parents, mais attendez les gars, je vais appeler la DAS, moi, parce que... Alors, ne serait-ce que pour leur santé, s'ils arrivent à le manger, et pour leur santé aussi, s'ils arrivent à se le renverser dessus, quoi.
Alors, on va parler de la raclette. On a eu une alerte raclette l'année dernière, hein, puisqu'il y avait une pénurie de fromage de raclette, ce qui a expliqué l'envolée des prix. Il est revenu cette année le fromage à raclette?
Alors il est revenu, mais en fait le cours de la raclette, hein, parce qu'il y a une offre et une demande, hein, sur les fromages comme partout, le cours de la raclette, il dépend de la demande. Et comme l'hiver dernier, on a eu un hiver quand même assez froid, qui a duré un petit peu, qui était en dents de scie, il y avait des jours il faisait beau, des jours il faisait froid, etc. Donc les gens ont surconsommé la raclette, et c'est vrai qu'on a été parfois en rupture de raclette. Et moi, je vois pas trop de fromage pour remplacer la raclette, parce que bon, la raclette, c'est la raclette. Hein.
La raclette, c'est le nom du plat et du fromage. Hein.
Et du fromage. Voilà. C'est une AOP, la raclette, bien sûr. Ouais.
Ah, appellation d'origine protégée.
Voilà.
Bon, et alors, il y a un truc de Manuel Mariani, c'est qu'il ne faut jamais boire froid quand on mange de la raclette.
Ou de la fondue savoyarde.
Ou de la fondue savoyarde.
Ouais, pourquoi? Parce que, évidemment, que ce soit les enfants qui vont boire leur soda ou leur jus d'orange bien frais pour accompagner la raclette, ou que ce soit les parents qui vont boire leur petit coup de blanc bien frais, hein, le petit apremont, vous voyez, avec la raclette ou la fondue. Je rappelle que le fromage fondu, à la base, il était quand même dur, hein, c'était quand même un fromage solide. Donc, quand vous prenez un fromage fondu comme ça, il arrive dans votre estomac, il est toujours à l'état fondu. Si vous buvez des boissons trop fraîches par-dessus, ça va vous faire une belle boule de fromage bien dure dans l'estomac.
Explique que parfois vous ayez plutôt mal au ventre.
Et du coup, votre raclette ou votre fondue, au lieu d'en manger pendant 2 heures, vous en mangez pendant 2 jours.
Merci, voilà. Manu. On verra la version de Julien Durand de la raclette dans un instant. Tirage au sort aussi, hein. C'est peut-être vous qui repartirez avec un livre, Manu, tout à l'heure.
Absolument, vous pouvez gagner aujourd'hui le livre Gâteau de Noël, bûches et autres biscuits à partir
non.
de...
Non, c'est la semaine prochaine.
Ah, le tirage au sort, oui, alors bien. Pardon, le tirage au sort aujourd'hui, c'est au pays d'Alice, hein, le livre de l'influenceuse food Alice Moirot, plus de 80 000 followers, hein, sur Instagram. Donc le livre est aux éditions de La Martinière, ça on fera le tirage au sort avec Maître Bouali tout à l'heure. Et puis, donc vous pourrez jouer à partir de 13h30 pour ce livre, cette fois-ci, c'est le bon, le livre Gâteau de Noël, bûches et autres biscuits, pour faire tous les beaux gâteaux et les belles pâtisseries de Noël, sans avoir tout le matériel d'un grand pâtissier.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, les plats que vous préférez manger au restaurant, fait à la maison avec le chef Julien Durand qui est avec nous. Alors, je voudrais juste qu'on termine sur la raclette. Quelle est votre vision à vous de la raclette, chef Julien?
Oh, c'est une vision un peu rôtie, un peu familiale. C'est sûr que c'est le plat qu'on aime manger en famille à la maison avec une bonne charcuterie, un peu fumée. Il y en a pas mal maintenant qui existent en halal, mais voilà, il n'y a pas de particularité première. Une bonne pomme de terre à chair ferme. concurer en robe des champs, non, concurer entière sur un lit de gros sel, voilà, faut l'améliorer, faut pas lui mettre une pomme de terre simplement cuite dans l'eau.
Ouais.
Il y a des petits détails comme ça qu'on peut avoir et qui sont tout cons, quoi, et qui donnent un goût un peu plus meilleur, on va dire.
Ouais, et puis laissez-la bien dorer, bien griller la raclette. Les gens, ils sont tellement pressés, ils vont sortir leur truc tout de suite, ils vont aller racler leur machin ou sortir leur petit poêlon tout de suite. Il faut attendre que la raclette, elle ait pris de la couleur.
Mais je pense que ouais, quand on joue un peu sur les
et cuissons, on mange la peau avec, excusez-moi.
On mange la peau, même pour une pomme de terre, on peut la cuire vraiment façon différente pour la rendre meilleure.
Quand vous dites la peau, c'est la peau de la pomme de terre, mais c'est pas la croûte du fromage.
La croûte du fromage, on la mange avec, hein, bien sûr. La raclette, c'est tout inclus. Hein.
C'est tout inclus. Pourquoi l'enlever ?
De toute façon, la croûte, c'est de la bonne pénicilline. Hein. Il faut manger la croûte des fromages.
Bien, merci docteur Mariani.
Je vous en prie.
Alors, vous m'imposez des desserts. Moi, je suis pas très sucré. Je vais continuer à saler.
Mais on va faire
le sucré, le tiramisu. Alors là, c'est pareil. C'est quelque chose. C'est un plat qu'on mangeait pas tellement il y a une vingtaine d'années. Puis maintenant, il y en a partout des tiramisu.
C'est très à la mode. Hein, ouais. Souvent revisité. Hein,
Très très revisité et souvent dans beaucoup de restaurants, c'est quelque chose qui a été décongelé. Hein, faut dire la vérité.
Ah bah oui, parce que beaucoup de gens pensent que c'est difficile à faire, mais en fait, pas du tout. Un tiramisu. Moi, ma fille à 14 ans, elle faisait déjà le tiramisu. Tiramisu, hein. Julien, c'est assez simple, tiramisu.
Ouais, faut additionner la crème et son lait. Après, faut le coller un petit peu, faut le monter, pardon. Et voilà. Après, ce qui est important, c'est d'avoir un bon biscuit pour bien imbiber, en fait. Et faut pas hésiter à en mettre. C'est vrai que moi, j'affectionne le café, mais on peut le faire avec un sirop un peu vanille pour les enfants, sans café. On peut le faire à plein de façons, non ?
On peut faire un café légèrement vanillé, d'ailleurs.
On peut faire aussi un café légèrement vanillé.
Parce que le petit goût de café, quand même, c'est sympa, hein, le petit goût de café.
C'est le tiramisu, ouais. Ouais. Ce qui fait. Ouais.
Alors, j'ai vu dans un restaurant une fois dans le Schnorr, ils faisaient un tiramisu local. Ouais. Et à la place du café, ils faisaient pour faire tremper les biscuits, ils mettaient quelques gouttes d'extrait de chicorée. Et donc, c'était original. Et ça faisait. Non, mais c'était
ça
pas mal. C'était une
ça.
Super bonne idée.
Ah ouais, c'est vous, génial.
J'en parle parce que vous êtes un fan de chicorée,
ah,
Philippe.
J'adore ça, ouais. Hein,
voilà, vous pouvez revisiter après le tiramisu. On vous sert des tiramisu aux fruits rouges. Il y a des tiramisu au Nutella. Il y a plein de versions. Etc. Mais bon, c'est vrai que le tiramisu de base, hein, c'est avec les biscuits imbibés, comme disait Julien.
Et le vrai cacao.
Le mascarpone, voilà, le mascarpone, le cacao par-dessus. Et c'est très facile à faire, c'est très bon.
L'île flottante, alors là aussi, il y a eu beaucoup d'assemblages, on va dire, dans les cuisines. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui est compliqué à faire dans l'île
peut-être
flottante?
Peut-être la crème anglaise, peut-être. Et après, cuire à souhait les blancs. Moi, j'ai une technique, c'est au micro-ondes, donc je monte mes blancs. Blanc en neige monté, pareil, les œufs, on les met pas au frais, on les laisse à température ambiante. On met pas un œuf au frigo non plus, et quand vous cassez la coquille de l'œuf, vous le cassez à part du bol avec lequel vous allez utiliser pour monter vos blancs. Parce que l'œuf est bourré de bactéries et c'est pas bon du tout. Ça, c'est le petit tips. Mais quand vous avez une fois monté vos blancs avec une petite pincée de sel pour bien les serrer, sur une assiette avec un film alimentaire tendu, vous mettez une grosse quenelle de ce blanc monté au micro-ondes, et à puissance petite, à 900 watts, on va dire, on va le cuire 30 à 40 secondes. Et vous avez un blanc qui monte, qui gonfle, cuit au micro-ondes en même pas 45 voilà. secondes.
Et qui reste crémeux un petit peu à l'intérieur. C'est en ça que ouais. c'est intéressant, sa technique à Julien. Et alors, la même technique que Julien, mais si vous voulez faire, si vous voulez mettre un petit peu les petits plats dans les grands, avoir une belle présentation, un peu comme au restaurant, vous prenez simplement des tasses à thé, vous voyez, avec un peu arrondi.
Oui.
Vous mettez vos blancs là-dedans et vous mettez ces tasses au micro-ondes, donc comme
pour
le dit Julien, pendant une minute.
Ouais.
Et après, vous le retournez sur l'assiette en tapant un petit peu. Alors, vous les remplissez pas à fond, hein, parce que ça va gonfler, donc ça va dépasser après. Donc, vous les remplissez aux deux tiers de la hauteur.
Ouais.
Donc, ça va monter. Vous allez renverser ça sur une assiette et vous n'aurez plus qu'à les poser sur une crème anglaise. Alors, je précise que l'île flottante, ça, c'est une appellation un peu marketing, hein, mais de mon temps, quand on faisait l'école hôtelière, dans le programme du CAP, ça s'appelait des œufs à la neige.
Des œufs à la neige avec la petite amande effilée qu'on a torréfiée.
On peut mettre un peu de caramel aussi.
Là, c'est pour la gourmandise. Ouais.
Petit caramel beurre salé si on veut rendre ça plus gourmand. Voilà.
Donc, Maître Boily est réveillé, Manu, c'est le moment.
C'est le moment du tirage au sort. Donc, pour gagner le livre Au pays d'Alice de l'influenceuse food Alice Moirot, c'est parti, Maître Boily.
faut parler pendant le tirage au sort maintenant, Maître Boily.
C'est un gros budget, ouais, il disait.
Ah, il commente le tirage au sort, Maître Boily. Alors, le gagnant, c'est Basilic. Ah non, c'est une gagnante. Alors, Basilic 33. Je sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, parce qu'un Basilic. Basilic 33, donc c'est une gagnante qui s'appelle Florence de l'Église. C'est elle qui gagne, ce livre au pays d'Alice, donc par l'influenceuse food Alice Moirot. Et à partir de 13h30, vous jouez sur mon Instagram, Mariani, M-A-R-I-A-N-I, point Manuel, M-A-N-U-E-L. Donc dès 13h30 pour gagner un super livre encore, le livre Gâteau de Noël, bûches et autres biscuits. C'est 80 recettes pour faire soi-même ces gâteaux de Noël et enchanter les fêtes de fin d'année. Et toutes ces recettes sont réalisables sans robot pâtissier, donc fastoche à la maison.
On l'a vu tout à l'heure avec la salade César. La cuisine, c'est souvent une histoire de sérendipité. C'est ce qui s'est passé avec la tarte tatin, hein, Julien.
C'est ça, les deux sœurs tatin qui sont un petit peu chamaillées et puis qui ont retrouvé la tarte au sol. Et puis ils ont fait une tarte mondialement connue.
Ouais. Une tarte renversée.
Tarte renversée, ouais.
Le secret de la tarte tatin.
La caramélisation, je pense.
Ouais, je suis 100% d'accord. Quand vous, même au restaurant, parfois, vous mangez des tartes tatin.
La variété des pommes.
Les pommes, elles, ouais, alors, bon, moi, je trouve que la golden, elle est très bien.
Top. Hein. Pour la cuisson, elle est
la golden. Bon, il y a j'ai oublié le nom de cette pomme, la pomme un peu rouge, là.
Gala.
Oui, voilà, la Royal Gala. Des Royal Gala, ça marche pas mal aussi. Il faut éviter la pomme verte, hein,
la granny
qui est un petit peu trop acide, qui caramélise pas.
La Canada, non?
Alors la Canada, elle marche pas mal avec.
Ah, ouais. C'est pas mal.
Elle marche pas mal.
Ouais.
Voilà, mais après il y a des gens qui aiment un peu moins la Canada parce qu'elle est un peu plus juteuse façon poire, quoi, plus.
Mais tout est dans le caramel. Je pense qu'il faut pas être trop pressé. Un caramel, ça prend un peu de temps. Ça se mélange pas un caramel, on laisse le sucre à sec dans une poêle chaude et on le laisse vanner avec notre poêle, on fait des petits arrondis comme ça. Faut surtout pas le mélanger, sinon ça va se cristalliser et c'est pas bon.
Et puis un petit peu de crème fraîche dessus.
Un peu beaucoup. Ouais.
Ou une boule de glace vanille. Allez.
Bon, la tatin, allez, on termine sur cette note sucrée. Bon, on continuera parce qu'il y a encore beaucoup de plats qu'on n'a pas vus, hein, plats que vous aimez manger au restaurant, à faire à la maison. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Chef Julien, le king of the foie gras, hein, le maître du foie gras.
C'est
donc
ça.
Pour tous ceux qui veulent tester le foie gras, avec un insert d'ailleurs de votre choix. Hein.
Ou nature, on peut la faire version nature. C'est sur Insta, on se rejoint et on discute. C'est sur Durand, D-U-R-A-N-D, Julien 94. Merci à tous.
Manu, on vous retrouve samedi prochain.
Avec grand plaisir, Philippe.
Et je vous donne rendez-vous demain entre midi et 13h pour le Book Club.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.